RCF.
Selon les chiffres communiqués par la FIFA, 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde a suivi la finale de la Coupe du monde de foot le 13 juillet 2014 au Brésil, qui opposait l'Allemagne à l'Argentine. Un chiffre qui confirme l'idée selon laquelle le football serait le sport le plus populaire au monde. Michael Correia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste.
C'est ça.
Et vous publiez aux éditions La Découverte une histoire populaire du football. Nous allons avec vous parcourir l'histoire de ce que l'on appelle parfois la planète foot, à laquelle sont associés des millions de supporters, des centaines de matchs chaque année et des sommes qui donnent le vertige. Mais nous allons surtout rappeler les valeurs et les personnes qui ont marqué cette histoire, très ancrée, on va le voir, dans la grande histoire. D'après vous, pour commencer, ce qui fait du foot le sport le plus populaire, donc, est-ce que c'est à chercher du côté des origines de cette discipline?
Je pense qu'effectivement, l'histoire même du football, enfin les origines même, elles sont relativement peu connues, et j'ai essayé de les mettre en avant dans le livre. C'est que faut savoir que donc, dès le Moyen-Âge, hein, notamment en Grande-Bretagne et un peu dans l'ouest de la France aussi, hein, en Bretagne, en Normandie, il y a des jeux populaires de ballon rond qui sont pratiqués. Alors, c'est des jeux qui se pratiquent dans les communautés paysannes à l'époque, qui sont aussi extrêmement ritualisées, hein. Souvent, c'est durant le Mardi Gras qu'on pratique ces jeux-là. Et il faut savoir qu'on voit déjà un peu, bon, j'appelle ça un peu du proto-football, on voit déjà vraiment les bases même du foot, qui sont deux camps qui s'opposent, donc de paroisses ou de communautés paysannes ou de villages différents, et qui doivent mettre le ballon de l'autre côté du camp. Mais bon, à cette époque-là, c'est vraiment par tous les moyens possibles,
quoi. Vous décrivez d'ailleurs que c'est une activité, disons, en ce moment-là, très violente.
Oui, effectivement, c'est violent parce que ça peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais au-delà de cette violence, il y a déjà une signification politique, au fait, dans le sens où c'est des jeux qui servent avant tout à renforcer la cohésion sociale de ces communautés paysannes-là, parce qu'on cultive collectivement encore la terre durant le Moyen-Âge, donc on a besoin d'une communauté soudée. Et deuxièmement, ça permet aussi, moi je parle d'espace de justice autonome, dans le sens où ça permet, durant la partie un peu, de régler des conflits qui ont eu lieu tout au long de l'année.
Utile et en même temps pas très bien vue par les autorités, qu'elles soient civiles ou ecclésiales.
Alors effectivement, dès le début de ces pratiques-là, on voit à travers l'histoire que ce soit le pouvoir ecclésiastique ou le pouvoir royal essaye d'interdire ces pratiques-là, donc qui sont éminemment violentes. Mais comme on est encore dans un pouvoir extrêmement vertical, c'est assez difficile pour les autorités de mettre fin à ces jeux extrêmement populaires à l'époque.
Le mot football apparaît à quel moment ?
Les premiers mots, c'est à partir du 13e, 14e siècle, dans des édits anglais de certains rois d'Angleterre, on parle de football.
Et en France,
de balle au pied.
De soule.
Et en France, on parle plutôt de soule ou de choule. Ça dépend des régions.
C'est donc une activité qui, bien que mal vue par les autorités, est toléré et puis de toute façon continue d'être pratiqué parce que dans les classes sociales les plus basses, dans la paysannerie, etc., on aime ça, quoi.
Alors oui, c'est un jeu tout, enfin les grands voyageurs qui vont en Grande-Bretagne ou qui vont se balader un peu dans l'ouest de la France vont être assez fascinés par la popularité de ce jeu-là, quoi. Ensuite, il va y avoir par contre un grand basculement à partir du 18e siècle et notamment en Grande-Bretagne qui va être les prémices de la privatisation des terres agricoles. C'est-à-dire que le Parlement anglais va autoriser, va donner l'accord à la bourgeoisie britannique de privatiser les terres, de mettre en place ce qu'on appelle les enclosures. Hein. Ils vont tout simplement commencer à clôturer les terres et s'accaparer ces terres pour en faire du capital. Il y a beaucoup d'historiens ou de gens comme Karl Marx notamment qui vont dire que cette privatisation des terres agricoles, c'est une étape fondatrice du capitalisme industriel. Et comme on a pu ces espaces-là, ces espaces se sont de plus en plus clôturés, in fine, ces pratiques-là populaires vont s'éteindre progressivement.
S'éteindre progressivement, mais réapparaître, alors cette fois sous une forme un peu inattendue, du côté de l'aristocratie et dans les écoles publiques, c'est-à-dire les grandes écoles anglaises.
Alors c'est ce qu'on appelle les public schools, mais elles sont toutes sauf publiques.
Hein. Elles
sont très privées, c'est des écoles qui datent encore une fois du Moyen-Âge, c'est là qu'on forme l'élite aristocratique du pays. Une des plus connues, c'est l'école d'Eton. Et donc dans ces écoles-là, donc la jeunesse bourgeoise, notamment à partir du 18e, 19e siècle, pratique ces jeux-là, des jeux qu'ils ont vus dans les villages, etc. Donc des jeux de football toujours aussi extrêmement violents, quoi. Mais ce que va faire le corps professoral à l'époque, au lieu d'interdire ces jeux qui sont aussi extrêmement populaires chez ces jeunes bourgeois-là, elle va commencer à les codifier, à les domestiquer.
Et à les intégrer carrément à la pédagogie, à s'en servir en fait.
Oui, c'est ça, il y aura une espèce d'opportunisme pédagogique dans le sens où, donc, au début du 19e siècle, c'est vraiment les débuts de la révolution industrielle en Angleterre. Et donc on a besoin de former cette jeunesse bourgeoise à être les futurs grands patrons d'industrie, les futurs aussi grands conquérants de l'empire colonial britannique, quoi. Donc on a besoin de leur inculquer des nouvelles valeurs. Et c'est vrai que le football, en le codifiant, pour les professeurs, ils vont se dire c'est une bonne école de certaines valeurs. Et quelles vont être ces valeurs? C'est l'esprit d'initiative, l'esprit de compétition, la combativité, le virilisme. Bref, des valeurs qui sont à l'époque vraiment nécessaires à la révolution industrielle et à la conquête coloniale.
Vieira, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casillas? Vas-y mon petit!
La suite de l'histoire.
Ça veut dire que c'est un sport qui s'embourgeoise au 18e et puis surtout 19e siècle?
C'est un sport. Donc, au début, c'était vraiment ce que j'appelle vraiment des jeux populaires. Donc, il y avait vraiment une dimension ludique. Et ensuite, le 19e siècle, ça naît vraiment en tant que ces jeux-là sont codifiés, domestiqués. Ça devient vraiment un sport moderne par excellence. Et c'est vrai que c'est un sport qui est aristocrate. Comme la plupart des sports, hein, le tennis, le cricket aussi, c'est des sports qui sont vraiment forgés par l'aristocratie.
Surtout en Angleterre, donc.
Alors, surtout en Angleterre.
Mais intervient la révolution industrielle, qui touche de manière tout à fait particulière l'Angleterre. Mmh. Et là encore, il y a une espèce de glissement, je ne sais pas, ou de basculement qui va s'opérer. Les ouvriers, le peuple, va se réapproprier ce sport. Mmh.
Ouais, il y a un point de basculement encore une fois assez important, c'est que donc ces jeunes bourgeois là qui deviennent donc les grands patrons d'industrie au milieu du 19e vont commencer à se dire ce serait bien qu'on inculque aussi le football à nos ouvriers pour l'inculquer ces valeurs là comme je vous disais de combativité, de compétition, etc. Mais aussi dans une dynamique de contrôle social, c'est-à-dire que pour eux les ouvriers à la sortie de l'usine, il faut pas qu'ils aillent au pub et surtout il faut pas qu'ils se syndicalisent. Du coup, on va un peu les occuper. On leur reprend aussi la division du travail à l'usine, quoi. Donc chacun a son poste sur la chaîne de montage comme à l'usine. Mais ça va devenir tellement populaire chez les ouvriers, notamment dans les années 1880, que ça a vraiment participé à créer une vraie culture chez les prolétaires, en tout cas anglais.
Le succès est au-delà des espérances de ces grands patrons, je ne sais pas si on peut déjà les appeler comme ça, industriels. Ça marche au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer.
Ils vont un peu se faire déborder, donc c'est une histoire assez marrante parce que ces ouvriers-là, c'est des gens qui sont issus d'un exode rural assez massif. Ils se retrouvent dans ces grandes métropoles industrielles comme Londres ou Liverpool. Mais comme ils ont besoin de refaire communauté, le football va vraiment servir de terreau à ça. C'est-à-dire que le samedi ou le dimanche, on va aller voir le match. Comme le patron, qui est souvent le détenteur de l'équipe locale, embauche des premiers ouvriers footballeurs, donc c'est des gens qu'on connaît. Ça a vraiment commencé à aiguiser une certaine fierté d'appartenance à sa communauté ouvrière, à sa ville et à son quartier. Et l'air de rien, in fine, a commencé à aiguiser une certaine conscience de classe, en fait.
Les clubs en question correspondent en général à une entreprise, à une usine.
Oui, comme Arsenal, par exemple, qui est la grande usine d'armement de Londres à l'époque.
À quel moment apparaît la notion de professionnalisation du foot?
Il y a le premier championnat, donc on est toujours en Angleterre, hein, qui émerge à la fin des années 1880. Et c'est vrai qu'à partir du moment, les patrons vont commencer à compenser donc les ouvriers footballeurs en leur donnant un petit billet pour compenser la perte de journée de travail à l'usine. Il va commencer à avoir tellement d'enjeux financiers, ça va devenir tellement populaire. Hein. Je crois que la première saison du championnat anglais, ça attire déjà plus de 600 000 spectateurs. Bref, ça va devenir tellement populaire qu'il va avoir une revendication ouvrière qui est donc cette revendication de la professionnalisation. Pour eux, ils se disent, bah nous, on joue tellement au football, on s'entraîne tellement en sortant de l'usine, qu'au fait, on aimerait considérer ça comme un vrai travail. Donc c'est aux alentours des années 1907-1909, on va avoir un premier syndicat d'ouvriers footballeurs qui va se monter. Donc c'est à Manchester, hein, une grande cité cotonnière de l'époque, qui est agitée par une grande ébullition syndicale, et qui vont dire, voilà, nous on travaille énormément, on peut se blesser aussi sur le terrain, donc on veut vraiment être pris en compte comme des travailleurs à part entière. Donc c'est vrai que les ouvriers, c'est vraiment eux qui vont demander à être professionnalisés.
Et comment est-ce que ce modèle s'exporte dans le reste de l'Europe, puisque la diffusion de ce sport est quand même assez étonnante?
Elle va être extrêmement rapide aussi, et ça c'est un peu grâce ou à cause de l'étendue de l'empire colonial britannique. On va voir que c'est vraiment dans les grands ports que le football va émerger ailleurs en Europe. En France, le premier club de football va naître au Havre, qui est un grand port commercial à l'époque, avec une petite communauté anglaise. En Espagne, ça va être l'Athletic de Bilbao, qui est aussi un grand port commercial. On voit la même chose en Argentine aussi, à Buenos Aires. En Afrique aussi, on voit vraiment que ça suit les ports. Et puis il y a aussi tous les chantiers de chemin de fer, ça va vraiment s'étendre au sein des différents pays, notamment en Afrique et en Amérique latine. On voit vraiment que les grands ports industriels vont vraiment être la porte d'entrée du football, puisque on a des marins anglais ou aussi des ingénieurs qui vont commencer à pratiquer le football au pied des bateaux, et ça va vraiment fasciner les populations locales de voir ces maudits anglais jouer avec ce ballon rond.
Dans les années 30, est-ce qu'on peut dire que à peu près tous les pays, au moins d'Occident, pratiquent le foot et l'ont adopté?
Oui, effectivement. Donc, cette diffusion a été très rapide. Notamment, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y a eu une espèce d'anglomanie au sein de la bourgeoisie. Donc, c'est vrai qu'on va avoir tous les premiers grands clubs, en tout cas en Europe. Je pense notamment à l'Italie, à Milan ou à Turin, dans ces grandes villes industrielles-là. En France, à Paris notamment. Toute la bourgeoisie qui est assez fascinée par l'Angleterre et par la révolution industrielle vont mettre en place des clubs comme ils ont vu en Angleterre. Par contre, il va se passer quelque chose d'assez important à partir des années 20 et années 30, avec l'avènement des grands régimes totalitaires, la mise en place des premiers, surtout, grands championnats et grandes compétitions. La première Coupe du Monde, c'est quand même 1930. Les régimes totalitaires, et notamment l'Italie fasciste de Mussolini, qui va vraiment être un pionnier dans cette mouvance-là, va très bien comprendre la puissance de mobilisation des populations avec le football.
Et s'en servir ?
Alors, ils vont vraiment s'en servir à des fins politiques, dans le sens où, le football, ça reste avant tout un espace de représentation des corps, et c'est vrai que dans les idéologies totalitaires et notamment fascisantes, il y a toujours cette question-là de virilité, de bonne santé,
et de suprématie.
De suprématie aussi raciale, puis aussi des soldats. Le football va permettre aussi de former des futurs soldats, donc il y a vraiment cette mise en scène du corps, et c'est vrai que le football s'y prête extrêmement bien, parce que, encore une fois, ça reste un bastion masculin et un jeu extrêmement viril.
Et donc, ça devient un lieu de propagande.
Ça devient un lieu de propagande, et c'est Mussolini qui va mettre cela en œuvre durant la deuxième Coupe du Monde, donc celle de 1934. Il y aura des efforts en termes de propagande assez novateurs à l'époque. On va inviter pas mal de journaux, on va avoir des traducteurs pour traduire les matchs en différentes langues, on va commencer à mettre en place des convois de trains spéciaux pour faire venir des supporters. Et c'est vrai que ça va vraiment être une mise en scène assez incroyable du pouvoir fasciste à l'époque. Donc c'est l'Italie qui gagne, comme par hasard. Mais c'est vrai qu'au lieu de remettre la Coupe du Monde, Mussolini va remettre sa propre coupe, la coupe Mussolini. Le monde entier et l'institution sportive, notamment la FIFA, va être assez fascinée par cette propagande et par ce spectacle-là, qui est vraiment un spectacle populaire aussi.
La FIFA qui existe déjà à ce moment-là?
Ah oui, la FIFA, elle a été donc mise en place par des Français, notamment par Jules Rimet, en 1919, et la première Coupe du Monde. Donc, comme je
en
disais,
France?
Oui, la FIFA, elle est organisée en France, et la première Coupe du Monde a lieu en 1930 en Uruguay. Mais comme c'est juste après la crise économique de 1929, elle va être très peu médiatisée, parce que très peu de joueurs vont pouvoir prendre le bateau, etc., pour se rendre là-bas.
C'est à Colombes que la France est opposée à l'Italie. Butler, Rimet, Adza, les deux capitaines sont de vieilles connaissances, et avec eux, les formalités du TOS sont vite réglées. La rencontre débute devant une assistance record pour un match de football. 60 000 spectateurs. Les Français peuvent espérer la victoire. Les Italiens, tout en noir, se montrent supérieurs. Ils attaquent. La balle parvient à Meazza. Il ouvre sur son ailier. Le ballon s'envole, mais Di Lorto l'arrête.
La suite de l'histoire.
On voit bien que l'Italie fasciste comprend à quel point le foot et les terrains de foot peuvent être des lieux de propagande et des lieux de manipulation des foules. L'Allemagne nazie procède de la même manière ?
Oui, Hitler va très bien aussi s'inspirer de son confrère Mussolini. Et c'est vrai que durant les Jeux Olympiques de 1936, il va essayer de mettre en scène aussi ce football-là. Alors, ça va être un peu plus compliqué pour Hitler dans le sens où l'équipe de football allemande est de très mauvaise qualité sportive. Donc, vite éjecté du tournoi olympique par une équipe outsider, notamment la Norvège, quoi.
Qui est l'homme de papier ?
À l'homme de papier, oui, ça c'est une histoire assez belle. C'est un joueur autrichien
donc des Sindelar. Années 30.
Oui, voilà, Matthias Sindelar. Et c'est vraiment le premier joueur en 1938 qui va résister contre l'hégémonie nazie. Alors, ça a notamment se passé durant un certain match en avril 1938, juste après l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne, hein, après l'Anschluss. Il y aura un grand match amical, entre guillemets, hein, pour sceller un peu l'unité des deux peuples germanophones. Donc, ce match-là est arrangé, hein, c'est un grand match de propagande qui doit se terminer par un match nul, hein, 0-0. Mais durant le match, l'Allemagne joue tellement mal que l'Autriche est obligée d'un peu feinter, de faire exprès de mal jouer. Mais Matthias Sindelar va craquer et à la 78e minute, il va marquer un but, ce qui va complètement affoler les dignitaires nazis. Quelques minutes après, un de ses coéquipiers, un Karselsta, va marquer un second but. Donc ce match arrangé va se transformer en véritable catastrophe parce que les deux hommes qui ont marqué le but, donc Matthias Sindelar, qui est un homme touchétif, donc qu'on appelle l'homme de papier, et Karselsta, qui est d'origine polonaise et qu'on appelle le gros, deux personnes qui sont diamétralement opposées au physique voilà. À rien.
Matthias Sindelar qui aura malheureusement une fin tragique.
Après ce but-là, tout le monde va dire qu'il a signé son arrêt de mort, mais il est tellement populaire à Vienne que les nazis vont préférer le laisser vivant. On va essayer de l'intégrer à la sélection allemande, mais il va toujours refuser en prétextant un genou malade. Mais ensuite, il va rentrer dans la semi-clandestinité à partir de 39, notamment parce que sa compagne est d'origine juive, et on va les retrouver tous les deux morts dans leur appartement. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont tous les deux morts d'une intoxication au monoxyde de carbone, d'autres que c'est un suicide, d'autres que c'est la Gestapo, voilà, qu'ils ont assassiné par la Gestapo. Mais bon, qu'importe, c'est Matthias Sindelar est entré dans la légende. Et pour ses funérailles, dans une époque où toute manifestation est interdite, on va avoir près de 15 000 Viennois qui vont accompagner le cercueil dans les rues de Vienne.
Un mot, si c'est possible, du match de la mort.
Alors pareil, c'était une grande légende. Ça se passe en Ukraine qui vient d'être envahie par l'armée allemande. Et on va avoir une équipe, notamment des anciens joueurs du Dynamo Kiev, qui vont sortir des camps de prisonniers et qui vont un peu reformer une équipe autour d'un boulanger de Kiev qui va les inciter à reformer une équipe. Parce que à l'époque, donc, les autorités d'occupation ont mis en place un championnat. Mais cette équipe de ces jeunes joueurs qui sortent des camps de prison...
Qui sont absolument pas en état de
jouer. Non, qui sont pas du tout en état de jouer. Donc vont être tellement bons qu'ils vont enchaîner plusieurs victoires contre les équipes des armées d'occupation et ça va être encore une fois une véritable humiliation pour l'Allemagne nazie. Et à partir d'un moment, donc les autorités de Kiev vont dire ce serait bien qu'on fasse un vrai match de la revanche pour essayer de se venger contre cette humiliation là mais encore une fois, cette équipe qui va s'appeler le FC Start, hein, va encore une fois battre l'équipe des vigoureux aviateurs allemands. Alors la propagande soviétique va pas mal s'accaparer cette histoire et va dire qu'à la fin de ce match, les joueurs vont tous être envoyés au camp et en tout cas être assassinés. Les joueurs vont continuer à faire quelques matchs. Ils vont quand même mourir dans des camps de concentration, mais pas en tant que footballeurs, mais en tant que simples Ukrainiens finalement.
L'État français favorise pendant l'occupation la pratique du football ou bien il y a une sorte de parenthèse dans le pays ?
Il y a une sorte de parenthèse dans le sens où, encore une fois, à l'instar de tous les régimes fascistes, le régime de Vichy va essayer de donner un sens politique à ce football-là. Il va essayer en tout cas de manipuler la Coupe de France. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on va déjà avoir un réseau de résistance au sein des milieux sportifs qui s'appelle notamment le réseau Sport Libre, qui va être mis en place par quelques cadres communistes avec l'objectif vraiment de militer au sein des clubs sportifs, quitte à amener quelques gens dans la résistance. On va avoir aussi quelques joueurs. Je pense notamment à René Galis, qui était à l'époque une star des Girondins de Bordeaux, qui va rentrer dans la résistance armée. Il y a aussi Rino Della Negra, un jeune fils d'ouvrier italien qui joue au Red Star de Saint-Ouen, qui lui va s'engager dans les FTP Moy et qui va être même au sein du groupe Manoukian et qui va mourir en 44 fusillé au Mont Valérien. Donc même dans le champ du football, on va avoir des pratiques de résistance armée ou non.
Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'URSS. On suppose que là encore, le foot a été utilisé à des fins de propagande et à des fins d'utilisation des masses.
Oui, oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en URSS, très rapidement, chaque club va être associé à un corps social de la société soviétique. Donc, il y a le Dynamo qui va être associé à la police politique, hein, au KGB. Le CSKA qui va être le club de l'armée rouge.
Quand vous dites associé, ça veut dire que les joueurs sont eux-mêmes issus de ces groupes ?
Par exemple, le Dynamo, c'est vraiment des cadres de la police politique qui encadre le Dynamo. C'est aussi une façon de recruter des futurs policiers pour le CSKA, donc le club de l'armée rouge. Encore une fois, c'est pareil. On va recruter des footballeurs au sein de l'armée. Puis ça permet aussi de donner une certaine image. Même le style de jeu de chacun de ces clubs va un peu refléter soit la rigueur militaire de l'armée rouge, ou par exemple pour un club comme le Lokomotiv, qui est le club des chemins de fer, un peu la rigueur mécanique, voilà, on va essayer de retranscrire sur le terrain. Quoi. Alors, il y a une espèce d'erreur dans ce paysage footballistique-là qui va émerger dans les années 20-30, c'est le Spartak de Moscou, parce que c'est quatre frères qui vont monter ce club-là, les fameux frères Staroulstin, et c'est un club qui va être au contraire totalement autonome du pouvoir soviétique.
Mais toléré ?
Alors, qui va être toléré, dans le sens où ça va être un club qui va être rapidement très populaire, parce que c'est vrai que le foot, ça être un des rares espaces de liberté de choix pour les soviétiques. C'est moi qui va décider d'être supporter soit du Dynamo, soit du CSKA ou du Spartak. C'est vrai que le Spartak, ça va être vraiment le club un peu de cœur des ouvriers.
Donc c'est une espèce d'espace de respiration un peu pour les supporters.
Oui, voilà, ça va être une petite façon de résister. Et puis ça va être quelque chose d'assez intéressant, notamment dans les tribunes des stades, parce que donc le foot va être très populaire dès les années 30 en URSS. Et déjà, donc on est dans cette société extrêmement surveillé. Bon, déjà dans les stades, dans les tribunes, l'anonymat que permet la foule permet déjà en quelque sorte d'échapper un peu à cette pression policière-là. Et puis surtout, il y aura une résistance d'ordre symbolique. Ça veut dire que quand on est supporter du Spartak et qu'on joue contre le Dynamo, huer les joueurs du Dynamo, in fine, ça voudra dire qu'on hue aussi la police politique. Le problème, c'est que, notamment à partir de 1936, le Spartak va enchaîner les victoires sportives. Et c'est vrai que symboliquement, au niveau de l'URSS, ça va donner une très mauvaise image, notamment de certains clubs comme le Dynamo. C'est vrai qu'à l'époque, donc il y a Alvarenti Beria, qui est le chef de la police politique, hein, le chef du KGB, va commencer à truquer les matchs pour que le Dynamo gagne et que ce soit plus le Spartak, et va même envoyer les frères Staroulstin au goulag.
Votre livre consacré à l'histoire populaire du football, Michael Correia, vous mettez vraiment l'histoire du foot en perspective dans la grande histoire. Vous nous avez raconté comment il s'est inscrit dans le cadre des régimes totalitaires, soit parce qu'il a été instrumentalisé, soit parce qu'il s'y est opposé. Le contexte de colonisation et de décolonisation est également à prendre en compte pour comprendre le pouvoir du foot et la manière dont il est aussi un lieu de résistance, encore une fois.
Oui, c'est vrai que ce soit sur le continent africain ou que ce soit sur le continent sud-américain, les différents pouvoirs coloniaux vont très rapidement aussi inculquer le football dans une optique, cette fois-ci, plus de civiliser, entre guillemets, les indigènes et de disciplinariser un peu les corps. Et c'est vrai que notamment au Brésil, on va voir qu'il va y avoir une vraie extension du football, mais qui va être réappropriée par les peuples colonisés. Notamment au Brésil, il faut savoir que donc au début, le football, il sert vraiment à cultiver l'entre-soi aristocrate, et c'est un sport exclusivement réservé aux Blancs. Hein. Mais petit à petit, notamment au début des années 20, on va avoir quelques joueurs métis, noirs ou indiens qui vont... Enfin, déjà, ces populations vont être fascinées par le football et un peu le pratiquer à la marge de façon assez sauvage. Mais comme ces joueurs sont tellement bons, c'est vrai que quelques équipes, notamment de São Paulo ou de Rio de Janeiro, vont intégrer quelques-uns de ces joueurs. Alors ça va être compliqué pour eux, il y a certains qui vont même devoir se mettre de la poudre de riz pour un peu blanchir leur peau.
Mais, pour être admis dans les équipes.
Pour être admis dans les équipes. Mais donc, faut savoir que dans les années 20, dans les années 30, la société brésilienne est extrêmement raciste. Et pour ces joueurs non blancs, ça va être très compliqué. Parce que donc le public est raciste, les joueurs sont racistes et l'arbitre est raciste, quoi. Donc à chaque fois, quand il y aura un attaquant non blanc ou en tout cas un attaquant noir, il serait que quand un défenseur défenseur blanc va essayer de le tacler, ou en tout cas va le tacler, ou en tout cas l'agresser physiquement, bah, l'arbitre va pas du tout siffler la faute.
Et ça peut être très violent et aller très loin. Il peut y avoir des blessures graves.
Et c'est vrai que la réponse, quelle va être la réponse assez intelligente, de ces footballeurs noirs, ça va être d'esquiver cette charge, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui le dribble, c'est vraiment un élément structurant du football brésilien. Il vient vraiment de là. C'est vraiment la réponse du footballeur noir face à la charge du défenseur blanc. C'est comme j'ai pas la loi avec moi, parce que l'arbitre ne va pas siffler la faute, et comme j'ai le public contre moi, comme il est raciste, ce que je vais faire, c'est que je vais esquiver cette charge-là, et donc procéder à un dribble, quoi. Et c'est vraiment une réponse, il y a vraiment une portée décoloniale dans ce geste-là, parce que c'est vraiment la réponse du colonisé face au colon, la réponse du dominé face au dominant, qui est, pour exister sur le terrain comme dans la société, hein, de toute façon, je dois me soustraire à cette violence-là du colon.
Et petit à petit, le foot finit par intégrer complètement la population, puisque on sait aujourd'hui la passion que les Brésiliens portent à ce sport.
C'est vrai que le football va vite devenir, notamment à partir des années 40, 50, 60, un vrai ciment social au sein de la société brésilienne. Et c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de joueurs, encore une fois, noirs, métis ou indiens, avec des grands joueurs comme Pelé, de couleur noire, ou Garrincha, qui est plus d'origine indienne. Ils vont commencer à intégrer dans leur style de jeu des éléments de la culture populaire brésilienne. Je pense notamment à la capoeira ou à la samba, ou une autre figure, notamment ce qu'on appelle le malandro. Le malandro, c'est le voyou de la rue, c'est celui qui doit toujours ruser pour survivre. Et c'est vrai que quand ces joueurs-là, notamment durant la Coupe du Monde de 1950, 54 ou 58, vont émerger sur les terrains en Europe, les commentateurs vont dire, on dirait de la danse, quoi. Ils vont vraiment faire appel à ces paraphrases-là, parce que c'est vrai qu'ils vont vraiment piocher dans cette terre-là un peu. Enfin, on va appeler ça le football arte. C'est vraiment l'art. Il y aura une dimension artistique
et esthétique.
Au football et esthétique au football. Ouais. Freaking away, there's a beautiful pass for him. He's round the goalkeeper, just let him run on, and he scores! No! The most magnificent dummy just didn't. Dieu est Dieu, son prophète est Mahomet. Mais en football, le roi est Pelé. Trois comme le café et le roi Pelé. Alors, puisqu'on est au Brésil et que vous avez prononcé leur nom, ce serait quand même dommage de ne pas dire un mot des destins de ces deux hommes que sont Garrincha et Pelé. Mais c'est vrai que ça a deux modèles de masculinité complètement différentes au sein de la culture populaire brésilienne. Pelé, c'est vraiment un pur athlète, c'est vraiment le sportif qui va se dire, pour m'en sortir, je peux m'en sortir qu'à travers le football et qu'à travers mon corps. Et c'est vrai qu'il va avoir un certain ascétisme. Il va vraiment travailler de façon totalement acharnée. C'est le premier grand football athlétique qui va consacrer pleinement sa vie à ça.
Discipliné.
C'est le premier aussi qui va commencer à mettre en place certains contrats sportifs aussi publicitaires. Bref, il va vraiment comprendre que le football, ça va être un ascenseur social pour les Noirs, et qu'à partir du moment, il doit vraiment se sacrifier et tout mettre en œuvre pour ça.
Garrincha.
Alors Garrincha, on est extrêmement à l'autre, enfin c'est vraiment l'autre opposé, donc lui il est plus d'origine indienne, mais c'est vrai que pour lui il va prendre ça, c'est quelqu'un qu'on surnomme la joie du peuple. Garrincha en brésilien, c'est un petit oiseau qui quand est capturé meurt, quoi. Et c'est vrai que ça correspond bien au personnage qui lui va faire aucun plan de carrière. Pour lui le foot ça reste qu'un jeu.
Qui souffre quand même d'un handicap,
oui.
C'est quand même assez.
C'est ça aussi, c'est extrêmement important, donc face à ce Pelé qui est extrêmement athlétique et sportif, Garrincha il souffre d'une maladie congénitale, donc il a les deux jambes qui sont arquées quand même vers l'extérieur, et il a une des deux jambes qui est plus courte que l'autre, quoi. Mais cette infirmité là, il va la retourner, ça va vraiment être son arme, dans le sens où il va être connu pour des dribbles assez ravageurs. Il va, durant un fameux match contre l'URSS, face aux monstrueux, aux géants russes, il va les faire littéralement tomber grâce à ces dribbles-là. Mais c'est vrai que Garrincha, lui, au contraire, contrairement à Pelé, qui après le match va rentrer à son hôtel et va s'entraîner dès le lendemain, Garrincha, lui, va continuer à faire la fête avec les supporters. Il va aussi avoir un penchant assez immodéré pour l'alcool. Pour les femmes aussi. Et c'est ça qui va le tuer à petit feu. Et puis, il va disparaître au début des années 80. Il va l'être un peu dans l'oubli. Il y aura quand même, encore une fois, 100 000 personnes qui vont assister à son enterrement, sauf Pelé qui viendra pas le voir. Mais c'est vrai que c'est deux modèles complètement différents. Mais l'amour populaire brésilien penche toujours pour Garrincha.
Vous parlez dans votre livre, dans le chapitre consacré à cette question de la colonisation et des processus de décolonisation, du rôle du foot dans la, ce qu'on appelait les événements d'Algérie, qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie.
Oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, bon, ça arc encore une fois, le football, notamment être en Algérie, va vraiment être inculqué par les colons. Mais quand la résistance algérienne se met en œuvre pour déclarer l'indépendance de l'Algérie, notamment à partir de 1958, donc après la bataille d'Alger, etc., pas mal du cadre du FLN, qui étaient eux-mêmes des anciens cadres de clubs sportifs en Algérie, vont commencer à se dire ce serait pas mal qu'on est en train d'un peu perdre sur le front de la lutte armée. Et c'est vrai que la lutte est très peu populaire en France. Hein. Comme vous le disiez, on parlait à l'époque dans les médias d'événements. Ils vont commencer à se dire, ces cadres du FLN, que ce serait pas mal de mettre en place, de revenir un peu sur le front de la propagande, quoi. Et c'est vrai que l'idée, il y a une idée qui va germer, une idée assez folle, qui va être de dire, on va créer une équipe de football du FLN, une espèce de proto-équipe d'Algérie. Mais qu'est-ce que vont se dire ces cadres? Ils vont pas recruter des footballeurs algériens en Algérie. Ils vont se dire, on va recruter les meilleurs footballeurs algériens qui évoluent à l'époque en première division.
En France. En métropole.
Quoi. Avec des grands joueurs à l'époque comme Rachid Mekloufi, par exemple, qui évoluait à Saint-Etienne.
Et ils arrivent à les convaincre.
Alors voilà, il y a une personne, un émissaire qui va être envoyé. Et pendant un an, il va tourner dans tous les clubs de première division française et convaincre un par un une douzaine de joueurs de passer clandestinement la frontière et de rejoindre le gouvernement en exil à Tunis, quoi.
Et ils jouent?
Alors, ils vont jouer. Donc, cette équipe-là, elle est formée en 58. Alors, déjà, le geste, il est pas anodin. L'équipe est formée en avril 1958. Quelques mois après, en juin 58, il y a la Coupe du Monde de Suède, qui se déroule en Suède, pardon, qui va démarrer. Et déjà, le FLN arrive à capturer quelques joueurs clés qui devaient officier durant cette Coupe du Monde. Donc, c'est un vrai coup d'éclat dans la presse française à l'époque. Et donc, ils vont jouer donc de 58 jusqu'à l'indépendance en 1962. Ils vont jouer entre 80 et 90 matchs en Tunisie, en Irak, ils vont aller aussi en ex-Yougoslavie, en Chine, au Vietnam. Ils vont en quelque sorte ainsi dessiner les premiers contours de la diplomatie de l'État indépendant algérien.
Pour terminer, un autre exemple quand même assez étonnant et révélateur. Là, on va plus vers l'Est et le Proche-Orient. C'est celui qui concerne les Palestiniens.
Oui, c'est vrai que les Palestiniens, ça a été aussi... Alors, c'est une lutte de longue haleine depuis, encore une fois, les années 30, où on a des premiers clubs sportifs qui essaient de se mettre en place. Bon, après la guerre de 47-48, petit à petit, on va avoir une équipe palestinienne qui va essayer de se mettre en place. Alors, ça va être extrêmement compliqué. Mais c'est vrai qu'en 1998, il va avoir une fédération palestinienne de football qui va être mise en œuvre et qui va être reconnue par la FIFA. Et donc, c'est vrai que la FIFA va être la première organisation internationale
à reconnaître
l'État palestinien en tant que tel, quoi. Et aujourd'hui, il y a toujours un championnat palestinien qui existe, mais qui est extrêmement difficile parce que dans ce championnat palestinien ressurgit un peu le quotidien du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que pour ces joueurs-là, c'est extrêmement compliqué de se déplacer dans les territoires, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, puisque tout le territoire est émaillé par des checkpoints israéliens. Et c'est vrai que les autorités israéliennes ont très bien compris que le football était un ciment très important de l'identité palestinienne et donc va toujours, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, bloquer les différents footballeurs ou équipes aux différents checkpoints et empêcher les matchs de se dérouler. Et c'est vrai que ça va être une lutte continue pour la Fédération palestinienne d'exister et de mettre en œuvre ce championnat de football en Palestine.
Quel Correa, le football, ce sont bien sûr des joueurs qui s'affrontent sur un terrain et un arbitre. Mais sans les supporters, il n'y aurait pas de foot, selon vous ?
C'est vrai que dans mon livre, dans l'histoire populaire du football, j'essaie de vraiment remettre en avant un acteur qui est vraiment oublié de l'histoire institutionnelle du football, qui est le supporter, effectivement. Après, il faut savoir que cette question du supporter, elle est relativement récente dans l'histoire, dans le sens où avant la Seconde Guerre mondiale, le football était le loisir populaire par excellence. C'est vrai que c'était des tribunes relativement familiales, mais après-guerre, il va avoir un triple mouvement. Il va avoir, premièrement, la fin des grandes communautés ouvrières, des grands quartiers ouvriers.
Vous parlez de l'Angleterre en particulier.
Oui,
là, hein.
Je parle vraiment de, oui, pour revenir à l'Angleterre, un peu en Italie aussi. Donc la fin des grands quartiers ouvriers, bon, qui disparaissent parce qu'ils ont été soit bombardés ou soit il y a une grande restructuration urbaine et c'est le début des banlieues, des grands HLM, etc. Il y a l'avènement de la société de consommation aussi, qui fait que le football devient vraiment un produit marchand. Et puis il y a aussi l'arrivée des postes de télé dans les foyer populaire, c'est vrai qu'on va commencer à regarder le foot non plus au stade mais à la télévision.
Et donc tout ça fait que...
Il y a
une implosion en fait de la communauté que représentaient les supporters.
Oui, voilà, bah, il y a vraiment, et donc le troisième élément, pardon, c'est vraiment l'avènement des premières bandes juviniles, des premières cultures juviniles, des premiers adolescents. Alors en France, ce qu'on connaît vraiment, c'est les blousons noirs. En Angleterre, il va y avoir ce qu'on appelle les Teddy Boys, les Mods, les Hard Mods, les Skinheads, etc. Et c'est vrai que pour ces jeunes rebelles qui ont envie de refaire communauté, comme le quartier ouvrier n'existe plus, ils vont investir un nouveau territoire qui va être les tribunes des stades. Et c'est vrai que le club va être un espèce de substitut symbolique aux anciennes communautés ouvrières et la tribune va être le nouveau territoire à défendre, quoi.
Donc avec essentiellement une population un peu rebelle.
Alors au début oui, très rebelle, très d'origine populaire aussi, et ça a donné naissance à une vraie culture supporter, donc encore une fois dans deux pays, donc la fameuse culture hooligans en Angleterre qui va émerger à la fin des années 60, début des années 70, où c'est vraiment des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans qui ont vraiment investi ce qu'on appelle les virages, hein, les ends, c'est la partie derrière les buts, c'est là où les places sont moins chères, et en Italie il va avoir un autre mouvement, donc encore une fois, ces mêmes jeunes gens rebelles, mais eux qui vont être nourris à autre chose, c'est les grands mouvements sociaux qui éclatent en Italie de 1968 à 1978, ce qu'on va appeler aussi en Italie les fameuses années de plomb, quoi. Et eux, les Italiens, ils vont apporter autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à importer des pratiques, des cortèges politiques dans les stades, c'est-à-dire qu'ils vont s'organiser en petits groupes, ils vont être autonomes financièrement, il va avoir aussi une certaine culture de l'anonymat, et ils vont aussi s'organiser pour au même titre que défendre à tout prix des revendications sociales, et il faut s'organiser pour la lutte, il faut aussi s'organiser et tout sacrifier pour encourager son équipe, et ça a donné lieu à une autre culture qui pareil va émerger au milieu des années 70 qu'on va dénommer la culture ultra. Donc on va avoir comme ça en Angleterre la culture hooligans et la culture ultra, deux cultures juvéniles et deux cultures de supportering relativement organisées, et c'est dans ces années-là qu'on va avoir émerger vraiment la figure du supporter.
Le père de famille ou le supporter disons plus rangé, lui regarde les matchs à la télé ?
Il va plutôt regarder le match à la télé. Ça n'empêche pas qu'on va les voir dans les tribunes aussi, mais non plus dans les virages, dans les stades, hein, derrière les buts, mais vraiment dans les tribunes plus officielles, avec les places assises. On va avoir comme ça une composition sociale dans les tribunes qui va émerger, avec sur les tribunes latérales et assis les notables, les gens les plus sages, les familles, et dans les virages, derrière les buts, les supporters les plus fervents, les plus agités. And talk about football coming home. You never walk alone. We were weak, but we've grown. And now I see us ready for war. The team good as before. Now we're going for more. The crowd is screaming. Heroes in the shirts.
Okay, listen up, everybody! It's over! It's over! Yeah! you sing. That's right. Football's coming home.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Agité jusqu'à quelquefois donc de vrais débordements et des violences. Est-ce que c'est réducteur d'associer immédiatement ses supporters à ce type de comportement ?
Alors il y a pas. Alors effectivement, il va avoir un vrai focus médiatique, alors notamment en Angleterre à partir des années 70, où les tabloïds vont s'en donner à cœur joie. Ils vont même un peu aiguiser ces rivalités dans le sens où certains tabloïds vont quand même mettre en place ce qu'ils vont appeler des ligues de violence. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire un classement entre les groupes de supporters les plus violents. Et ça, ça va vraiment participer à aiguiser ces violences-là. Il va y avoir aussi à partir des années 70 pas mal de groupuscules d'extrême droite ou néo-nazis qui vont vraiment infiltrer les tribunes et un peu jouer sur cette question identitaire-là. Comme je disais au début, il y a vraiment la volonté de défendre son club, de défendre son territoire, sa tribune. Et c'est vrai que l'extrême droite va très bien manipuler cette question-là et jouer sur ce réflexe identitaire.
C'est le calendrier des matchs, dites-vous, qui vient signaler les occasions d'affrontement.
Oui, c'est vrai qu'à partir d'un moment, dans certaines franges hooligans en Angleterre, la violence, elle va plus être une façon de remettre en jeu à la sortie du match la rivalité, mais elle va devenir un match à part entière et ça va devenir une fin en soi.
Est-ce que dans ces années-là, il y a aussi des grands noms qui émergent ?
Dans les années 80, il y a le fameux Platini qui est à la Juventus, il y a Socrates, le grand joueur brésilien qui est à la Fiorentina, il y a Maradona qui est à Naples, et c'est vrai que les rivalités vont être extrêmement exacerbées dans la première division italienne, et pour revenir à ce que je disais au début, c'est vrai que la culture ultra elle va vraiment exploser dans ces années-là, quoi. On est vraiment aussi dans un grand mouvement d'expansion du foot business qui va aussi populariser grandement le football. Après, il y aura un grand événement clé qui va un peu mettre fin et notamment à cette culture-là, notamment en Ligue 1, c'est le fameux drame du Heysel en 1985.
Donc en Belgique.
En Belgique, à Bruxelles. C'est la finale de la Coupe des clubs champions où la Juventus en finale affronte Liverpool. On va avoir plein de jeunes, encore une fois, de Liverpool qui vont débarquer et qui vont mettre en place un jeu très commun à l'époque dans les tribunes anglaises, qui s'appelle le taking of an end, c'est-à-dire qu'on va essayer de voler la tribune adverse, de se déplacer dans les tribunes d'à côté, de s'incruster dans la tribune d'à côté. Sauf qu'à côté, qu'est-ce qu'il y a ? On a des supporters belges d'origine italienne de la Juventus qui connaissent pas cette pratique et qui vont voir cette horde de jeunes supporters débouler vers eux, et ça a très mal se passer puisque il y a un mur du stade qui est un stade à l'époque quand même très vétus qui va s'effondrer et qui va provoquer quand même une quarantaine de morts suite à cet effondrement.
Et en quoi est-ce que ça constitue un tournant ?
Ça constitue un grand tournant d'un point de vue répressif, puisque déjà en Europe, on va être assez exaspéré par ces hooligans qui sèment un peu la pagaille au cours de leur déplacement durant le championnat européen. Et puis il y a aussi Margaret Thatcher à l'époque en Angleterre, qui va vraiment faire de la figure du hooligans une des figures qu'il faut écraser, quoi. Elle va dire vraiment, il y a la figure de l'ouvrier mineur syndicaliste, il y a la figure du punk contestataire et la figure du hooligans. Ces trois figures rebelles contestataires assez significatif du milieu ouvrier qu'elle veut écraser. Et c'est vrai qu'il va avoir, dès ces années-là, un arsenal juridique et répressif qui va être mis en place contre ses supporters virulents.
Bon, à côté de ça, on voit aussi des tas de supporters assister au match dans le plus grand calme, se retrouver sur les places de village parce qu'on installe des écrans géants ou des télévisions bars.
Oui, exactement.
C'est ça aussi, les supporters.
Ben, c'est avant tout ça, c'est ce que j'essaie de mettre en avant dans le livre, c'est toutes les sociabilités qu'il y a autour, quoi. Et que ce soit chez les hooligans, chez les ultras, chez les supporters lambda, il y a aussi cette culture d'aller, de se retrouver avant le match, pendant le match, après le match, les échanges qu'il peut avoir autour. Bref, il y a vraiment cet espace de faire communion, de connaître aussi un peu l'histoire sociale de son club, de mettre en avant l'identité collective de sa ville, hein, que ce soit pour revenir à la France, Lens, par exemple, le RC Lens, c'est l'identité ouvrière et minière qu'on va mettre en avant. À Saint-Étienne aussi, il y a vraiment un lien entre l'identité collective et l'histoire sociale de sa ville qui peut être mis en avant dans sa tribune. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant dans ces questions de supportering aussi.
Neymar est parti du FC Barcelone, il est quasiment au Paris Saint-Germain. Un transfert gigantesque, on l'a dit, hein, 222 millions d'euros.
Chaque année, lors du mercato, Michael Correa, on a l'impression qu'on dépasse à chaque fois les records de l'année précédente. En tout cas, les sommes qui sont annoncées sont souvent vertigineuses, voire assez choquantes, parce qu'on se demande à quoi ça correspond finalement. Là, on est en plein dans le sport et dans le foot devenu une véritable industrie.
Oui, là, il y a une vraie industrialisation du football, bon, qui est à l'œuvre. Bon, on la retrouve dès les origines, hein, où on voit que les grands patrons s'accaparent ce football-là.
Et qu'il y a un enjeu financier.
Qu'il y a un enjeu financier dès le début.
Mais
c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une extension. On y voit vraiment les pires dérives du capitalisme mondialisé. Il y a encore là récemment, on a négocié les droits pour la Ligue 1 française, on a atteint le record symbolique des 1 milliard d'euros. Il y a aussi la valeur économique des joueurs qui est totalement déconnectée de la réalité économique. Et des joueurs comme Neymar qui sont à plus de 200 millions d'euros, on ne sait pas à quoi vraiment c'est connecté. Il y a aussi les stades, je pense aussi aux tribunes où aujourd'hui les prix des places et des abonnements est totalement effarant. Pour un club comme le PSG à Paris, une des places les moins chères, c'est 45-50 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, une famille modeste ou un jeune issu des quartiers populaires peut aller chaque semaine au stade et débourser 45 à 50 euros? Je pense pas.
Le foot, quand il est pratiqué de cette manière-là, est complètement déconnecté de sa vocation d'origine?
Dès le début, il y a un foot marchand qui a été mis en place, mais après, il y a aussi un autre football que je qualifierais donc de plus populaire, de plus sauvage, qui est pratiqué dans la rue, qui est ce football très simple, où il suffit d'avoir un ballon, un bout de bitume ou un
et
terrain vague. Oui, ou même pas, ou des poteaux qu'on fait avec son sac,
pull.
Tous les enfants ont fait ça, voilà. Ce qui est vraiment cette dimension-là, et c'est, je pense, c'est la puissance même du football, et c'est ça qui fait que c'est un sport éminemment populaire, c'est que pour le pratiquer, c'est des éléments très simples, et même les lois, ce qu'on appelle les 17 lois du football, sont très simples à assimiler.
Elles ont été fixées à quel moment ?
Elles ont été codifiées en 1863. Ça, c'est au fur et à mesure les grandes écoles qui pratiquaient, les grandes public schools qui pratiquaient en Angleterre le football. Comme ces collégiens voulaient ensuite à l'université pratiquer leur jeu, ils ont dû un peu standardiser, réunifier tous les footballs que chacun pratiquait dans son école. Et on s'est entendu pour mettre en place ces 17 lois. Ça s'est passé dans une fameuse taverne à Londres en 1863 où on a une dizaine de clubs londoniens qui ont écrit ces lois sur un bout de papier.
Et c'est là que la ville de rugby s'est dissociée.
Oui, c'est
préférant
ça aussi.
Garder le jeu aussi,
oui,
à la
voilà.
Main et au pied.
C'est l'école de rugby. Dans cette école-là, ils pratiquaient donc un jeu de ballon, un football où ils pouvaient prendre le ballon à la main. Et quelques joueurs de rugby ont dit « Ah non, nous, on veut continuer à pouvoir prendre le ballon à la main ». Et quelques années plus tard, je crois que c'est 1872, si je ne me trompe pas, il y a eu la fédération de rugby qui a été mis en œuvre. Ouais.
Alors revenons à cette industrialisation du football. D'après vous, elle date de quand ?
Il y a deux grandes époques pour moi. C'est dans les années 60 avec les premières retransmissions à la télé. Les sponsors, les grands publicitaires vont vraiment se dire il y a une vraie visibilité qui est à l'œuvre et du coup, on va avoir les débuts du sponsoring dès les années 60. Sponsoring qui va d'ailleurs se retranscrire dans le jeu, c'est-à-dire que dès les années 60, on va avoir mis, enfin notamment en Europe, des équipes qui prennent beaucoup moins de risques sur le terrain parce que il y a des enjeux financiers, du coup on va mettre en place des jeux beaucoup plus défensifs, il y a beaucoup moins de créativité. Le deuxième grand basculement, il se passe toujours en Angleterre au début des années 90 où on va avoir énormément d'argent qui va être injecté, encore une fois à travers les droits télé. Il y a tellement d'argent qui va être mis sur la table que les clubs de football peuvent se dire ah bah tiens, je sais que pour la saison à venir, je peux espérer environ 100, 200, 300 millions d'euros de droits télé, du coup je vais pouvoir investir dans des grandes infrastructures comme des grands stades ou dans des joueurs quoi. Et c'est vrai qu'on va commencer à avoir dès le début des années 90 des clubs comme Manchester, notamment Arsenal, qui vont être cotés en bourse. Et c'est vrai qu'on va assister à une grande libéralisation économique du football. Et le dernier acte, c'est 1995, l'arrêt Bosman, où un joueur qui était en Belgique qui voulait être transféré à Dunkerque en France, transfert qui a été refusé par son club, il met ça devant la Cour de justice européenne et la Cour de justice européenne autorise son transfert. Et c'est vrai que là on va avoir une vraie libéralisation du marché des footballeurs et ça va être une des grandes étapes de l'industrialisation, la grande financiarisation du du football professionnel.
La starification des joueurs, elle aussi, elle est dès l'origine ou bien il y a une accélération quand même avec l'apparition des médias et en particulier de la télé?
Oui, elle est là aussi dès les origines avec les grands ouvriers footballeurs dès les années 30-40 et dès les grandes compétitions aussi, hein, dès les Coupes du Monde. C'est encore une fois à partir des années 60-70 où les grandes stars, ce qu'on appelle les joueurs mercenaires, c'est-à-dire qu'on ne va plus recruter des joueurs de la ville, mais on ne va pas hésiter à donner de l'argent pour recruter des joueurs d'autres villes. Mais après, encore une fois, c'est à partir des années 90 avec l'avènement du sponsoring de masse et les publicitaires vont très bien comprendre qu'il y a tout un intérêt à individualiser les joueurs. C'est aussi à cette époque-là qu'on va commencer à voir le nom des joueurs au dos des maillots et les publicités sur les mains. Donc on va vraiment, c'est plus l'équipe qui va commencer à importer, mais vraiment l'individu et qui va servir de support marketing à part entière et qui va devenir aussi un capital aux mains du club.
Est-ce qu'il y en a qui résistent à ça? Est-ce qu'on assiste à une forme de résistance?
Alors oui, il y a énormément de résistance au sein de ce football-là, que ce soit dans l'institution comme au sein des tribunes. Pour revenir toujours en Angleterre, c'est vrai que dans les années 90, quand les grands clubs, donc notamment Manchester United, se fait racheter, donc cette fois-ci c'est en 2005, par un grand milliardaire américain donc qui s'appelle Malcolm Glazer, les supporters de Manchester United sont tellement écœurés par ce geste-là, dans le sens où ils savent très bien que le prix des places vont augmenter à nouveau, que c'est quelqu'un pour qui le football importe peu et c'est juste un investissement financier. Ils vont résister d'une façon assez originale, dans le sens où ils vont créer une coopérative de supporters qui va chacun mettre un peu la main à la poche et ils vont fonder leur propre club, un espèce de club rebelle, un club protestataire qui s'appelle le FC United. Et c'est vrai que pour ces supporters-là de Manchester qui vont donc créer de toutes pièces leur club pour se rebeller, ce qui leur importe, c'est pas d'avoir un grand club comme Manchester United et on va payer une place hors de prix et où on va pas pouvoir supporter son équipe comme on veut dans le stade. Ce qui importe pour eux, c'est d'avoir leur petit club de quartier où ils se retrouvent tous les samedis en famille, où ils vont pouvoir faire les déplacements entre copains et copines. Bref, c'est vraiment la dimension sociale qui les intéresse. C'est vrai que ce mouvement des coopératives de supporters, avec donc des gens qui créent leur propre club ou des gens qui cotisent encore une fois de l'argent, qui mettent en place de l'actionnariat populaire pour acheter des parts du club, pour avoir son mot à dire, il devient de plus en plus prégnant en Europe. Il y a déjà une trentaine de clubs comme ça en Angleterre, ça existe aussi en Irlande, en Écosse, en Italie, en Espagne aussi un peu. En France, il y a des assos comme à la Nantaise, où c'est des supporters du FC Nantes qui cotisent pour tenter dans les années à venir à acheter une part du club. Bref, on voit vraiment que les supporters ont des aspirations démocratiques et veulent avoir voix au chapitre dans la direction du club qui supporte.
Avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'émotions, car le pays tout entier est en train de vivre un moment capital de son histoire sportive. C'est vrai qu'on pourra toujours dire qu'il y a des choses plus importantes que le football, mais à l'heure qu'il est, la France s'est arrêtée pour soutenir les 11 joueurs qui sont sur la pelouse, les 11 qui sont sur le banc. D'ailleurs, les Français ont occupé le banc de droite, celui qui occupait la croix assis lors du match précédent, car le tirage au sort a désigné le Brésil comme équipe recevant. Et nous allons tout de même commencer par l'hymne du Brésil.
Oui, par la musique de la garde républicaine et les chœurs de la garde républicaine.
Pour terminer ces entretiens, Michael Correa, j'aimerais citer Pasolini, que vous avez mis en exergue dans votre livre. Le football est la dernière représentation sacrée de notre temps. C'est un rite dans le fond, même s'il est évasion. Si d'autres représentations sacrées sont en déclin, y compris la messe, le football est la seule qui nous reste. Le football est le spectacle qui a remplacé le théâtre, un spectacle dans lequel un monde réel, de chair, celui des gradins, du stade, se confronte avec des protagonistes réels, les athlètes sur le terrain qui bougent et se comportent selon un rituel précis.
C'est vrai qu'il y a une dimension, Pasolini l'a très bien compris, c'est un des rares intellectuels, il y en a peu qui a écrit sur le football avec Camus et Georges Samprin. Bon, c'est vrai qu'il y a cette dimension très religieuse dans le sens où c'est quelque chose d'extrêmement ritualisé, l'arbitre qui est l'homme en noir, les instants de communion dans le stade aussi, c'est quelque chose de pas anodin. Et puis sur la question théâtrale aussi, il y a un vrai parallèle à faire entre un match de football et une pièce de théâtre classique, dans le sens où un match match de football va respecter les trois unités du théâtre classique. Donc l'unité de temps, c'est tout se passe durant les 90 minutes. L'unité de lieu, tout se passe dans le stade. Et l'unité d'action, c'est tout se passe sous nos yeux, à contrario d'une course hippique ou du Tour de France, par exemple. Donc puis il y a une vraie force dramaturgique aussi, dans le sens où durant 90 minutes, on peut ressentir tout ce qu'on peut sentir tout au long d'une vie, que ce soit la rage, le sentiment d'injustice, la joie ou le désespoir. Donc il y a un vrai parallèle comme ça, je pense, à faire entre le théâtre, le côté liturgique et le football. Et je pense que c'est un des secrets de la puissance et du fait que ce soit un fait éminemment populaire. Je pense que ça joue sur ces ressorts-là, en tout cas.
Même aux auditeurs et aux auditrices qui ne sont pas férus de foot, je recommande vivement votre livre, Michael Correa, Une histoire populaire du football, qui met donc ce sport très populaire en perspective et qui l'inscrit dans la grande histoire. C'est un livre que vous avez publié aux éditions La Découverte, et je rappelle que vous êtes journaliste. Un très grand merci d'être venu retracer pour nous l'histoire du foot.
Merci.